France Culture, l'esprit d'ouverture.
La plus célèbre des houppettes fête ses 90 ans. Née en 1929 sous le crayon d'Hergé, Tintin et Milou ont ravi des générations de lecteurs.
La momie.
Elle a disparu, évaporée à Scarcapac, volatilisée.
France Culture, la comédie française, Moulinsart et l'Orchestre National de France vous invitent à suivre et à podcaster trois aventures du célèbre reporter.
Je vais vous couper la tête.
Les cigares du pharaon, le lotus bleu et les sept boules de cristal. Un dossier spécial, les aventures de Tintin.
Et je dirais même plus, un podcast exceptionnel à retrouver sur franceculture.fr.
Monsieur Tintin, quelle joie de vous rencontrer enfin.
France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Et l'on commence par ce défi, cette autoproclamation au Venezuela. Le principal opposant à Nicolas Maduro, fort des dizaines de milliers de manifestants qui ont défilé hier à son appel, s'est proclamé chef de l'État par intérim. Dans la foulée, Juan Guaido a été reconnu par le président américain Donald Trump, ainsi que par le Canada et une dizaine de pays d'Amérique latine. Le président élu Nicolas Maduro lui parle d'un coup d'État. Il annonce rompre toutes ses relations diplomatiques avec les États-Unis. Alors que la nuit est tombée sur le Venezuela, le pays a donc deux présidents pour le moment. Et alors que le continent sud-américain connaît une brusque montée de tensions liées au Venezuela, le pape François est arrivé au Panama pour les Journées mondiales de la jeunesse. Parmi les dizaines de milliers de personnes qui s'étaient massées hier soir pour saluer le souverain pontife, un pèlerin a brandi une pancarte « Priez pour le Venezuela », était-il écrit, à côté d'images de la Vierge et de drapeaux des pays représentés. C'est finalement ce matin, à 10h tout à l'heure, que le conseil d'administration de Renault va se réunir. Il travaille à la succession du patron du groupe, Carlos Ghosn, qui est toujours emprisonné au Japon pour des soupçons de malversation financière chez Nissan, est pressenti pour le remplacer Jean-Dominique Sénard, actuel président de Michelin. Une liste jaune, une liste gilet jaune pour les élections européennes. Elle s'est dévoilée hier. Sa tête de liste sera Ingrid Levavasseur, l'une des figures du mouvement social. En bref, encore une grève générale dans les lycées ce jeudi. Les professeurs sont appelés à manifester contre le mépris auquel ils disent faire face. Ils invitent les lycéens et les parents d'élèves à se joindre au mouvement, à se mobiliser également contre les suppressions de postes à la rentrée, contre la réforme du baccalauréat, ainsi que la plateforme Parcoursup.
France Culture et le Théâtre de la Ville vous invitent à passer une journée avec Paul Claudel. Voyage littéraire autour du partage de midi. Fanny Ardant lit les lettres à Isée et Marcel Bozonnet lit des extraits de Connaissances de l'Est, une réalisation de Christophe Hocquet. Rendez-vous ce samedi de 15h à 18h30 au Théâtre de la Ville, Espace Cardin à Paris. Programme complet et réservation 01 42 74 22 77 et sur franceculture.fr.
Il est 6h03 sur France Culture. Nous retrouvons Toufik Hakem qui nous parle de bande dessinée toute cette semaine à l'occasion du Festival de la bande dessinée d'Angoulême. Le Grand Prix, d'ailleurs, le Grand Prix 2019 a été décerné hier soir à une japonaise. Toufik Hakem, donc, pour son réveil culturel.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, aujourd'hui s'ouvre le 46e Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Voilà, c'est comme ça qu'il faut dire. Et c'est un festival qui s'ouvre avec une bonne nouvelle, puisqu'enfin une femme a été primée. Rumiko Takahashi, on le sait depuis hier, est grand prix du Festival d'Angoulême. Cela n'était pas arrivé depuis Florence Sestac, c'est-à-dire depuis les années 80. Il y a bien eu, entre-temps, un prix en hommage à la carrière de Claire Bretéché, mais bon, bref. Sur 46 éditions, ça fait pas beaucoup, mais heureusement, l'auteur ou l'autrice de mangaka est honoré cette année au Festival d'Angoulême avec ce prix sacré. Dans un instant, c'est Stéphane Beaujean, le directeur artistique, qui viendra nous parler de l'œuvre et du style de Rumiko Takahashi. Et puis ensuite, comme tous les jeudis, on parlera de musique. Mais puisque c'est Angoulême, on va voir comment les dessinateurs représentent la musique. musique, les vibrations musicales, leurs goûts musicaux par le dessin. C'est bien sûr le Réveil Culturel, l'émission que vous écoutez tous les matins si vous êtes lève-tôt ou que vous écoutez en podcast si vous êtes un fidèle parmi les fidèles. Corinne Amar, Vincent Abouchard, Alain Joubert, allez, c'est parti.
Le Réveil Culturel. Jeudi, musique.
Bonjour Stéphane Beaujean.
Bonjour Toufik.
Alors ça y est, enfin une femme Grand Prix d'Angoulême. Cela ne s'était pas produit depuis le prix attribué à Florence Sesta, qui est restée de nombreuses années la seule femme ayant décroché ce prix. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette auteure japonaise qui a obtenu, on l'a su hier, le Grand Prix d'Angoulême?
Tout à fait, Rumiko Takahashi, c'est probablement l'une des artistes les plus importantes des années 80 et 90 au Japon et peut-être même dans le monde, puisque à cette époque-là, elle avait un tel succès qu'elle était l'une des premières contribuables de son pays et elle a touché plusieurs dizaines, voire centaines de millions de lecteurs à travers le monde. Donc on peut dire assurément que c'est la femme autrice de bande dessinée la plus célèbre au monde, ça c'est sûr, même si j'ai pas du tout envie de communiquer nécessairement sur son genre. Et sinon, c'est une artiste qui, moi, m'a beaucoup marqué par la manière dont elle abordait la question de la marginalisation au Japon. Elle fait des fables comme ça, douces, amères, avec des personnages extrêmement excentriques, très touchants, un peu rocambolesques. Mais derrière ce vernis sucré et pop, on trouvait vraiment toutes les angoisses des déclassés sociaux du Japon de cette époque-là. Et je trouvais ça vraiment très touchant.
Alors, pour ceux qui connaissent pas l'œuvre de Rumiko Takahashi, quelles sont les bandes dessinées qu'il faut lire pour comprendre à quel point cette auteure a d'abord, avant de parler du fond, a un trait propre à elle?
Ça va dépendre un peu de vos affinités. Si vous aimez bien le divertissement grand public, il y a évidemment Ranma 1,5, qui était une bande dessinée qui renouvelait un peu les codes de la BD d'arts martiaux à l'époque, en mettant en scène un personnage qui était très drôle parce qu'il était capable de changer de sexe. Enfin, il subissait des changements de sexe à chaque fois qu'il était mouillé. Donc elle... Voilà, la question du transgenre avant l'heure, sur fond de dessins vraiment très pop, très coloré, enfin pas dans le manga, mais dans les illustrations. Sinon, moi j'ai beaucoup d'affection, ma bande dessinée préférée de Rumiko Takahashi, c'est Juliette, je t'aime ou Maison Ikkoku, qui est la chronique sentimentale d'une femme qui a perdu son mari, donc une veuve, et d'un jeune aspirant enseignant qui n'a pas assez d'argent pour être un modèle de citoyen prêt à être marié. Et donc voilà, c'est les hauts et les bas de leur relation sentimentale très compliquée sur fond de petites pensions où vivent plein de gens qui n'ont pas d'argent. C'est un beau portrait du Japon de cette époque.
Le Réveil Culturel. Toufik Hakem.
Stéphane Beaujean, on va parler musique, la relation qu'entretiennent les dessinateurs avec la musique, comment rendre compte de la musique aujourd'hui dans le Réveil Culturel. Est-ce que vous-même, vous avez des auteurs de prédilection concernant ce sujet, ceux qui parlent le mieux de la musique, qui la représentent le mieux, qui la font entendre avec leurs traits?
Moi, j'ai évidemment une immense admiration pour Blutch et pour son travail autour du jazz. Il y a une véritable recherche de traits en fonction du musicien qu'il représente. Je trouve que ça fonctionne très bien. On comprend ses intentions, on comprend sa perception de la musique ou de l'œuvre du musicien dont il parle. Je trouve que c'est le travail le plus abouti dans ce domaine et de très loin, mais sinon j'ai aussi énormément d'affection pour Loustal, qui a su apporter là aussi une gamme colorée très intéressante et une approche de Barnet, la note bleue. Je trouve ça très très intéressant, ça reste une œuvre, je dirais, majeure de la bande dessinée des années 90. Je pense évidemment beaucoup aussi à Dodo Benradis et aux Cloches, qui est quelque chose qui pourrait paraître peut-être un peu daté à certains, mais moi pour lequel j'ai beaucoup d'affection et qui je trouvais un témoignage parfait de cette époque des 70s, début des 80s, du rock, ce genre de choses. Bon, il y a énormément de gens en ce moment en manga. Il y a Blue Giant de Shinichi Shizuka, qui est un des invités du festival cette année, qui s'attarde encore une fois au jazz et qui est une manière d'approcher la représentation de la musique que moi je trouve très intéressante, très performative, qui essaye de, lui, il essaye de traduire les sentiments intérieurs du musicien en train d'essayer de s'exprimer. Et il fait passer ça par des infimes petites variations de dessin qui sont très intéressantes à observer.
Musique et bande dessinée, c'est aussi le programme, une partie du programme du Festival d'Angoulême cette année, Stéphane Beaujean.
Tout à fait, depuis que Benoît Mouchard a inventé les concerts de dessin et les concerts dessinés, quand il était directeur artistique, on a vocation au Festival d'Angoulême de continuer ce décloisonnement, ou plutôt ce dialogue. Et depuis 2-3 ans, on essaie de moderniser un peu notre approche, de la renouveler en tout cas plutôt que de la moderniser. Et on a eu la chance de pouvoir tisser un partenariat avec l'Orchestre de Paris l'année dernière et la Philharmonie. Et cette année, donc, on a pu monter un spectacle assez impressionnant qui a réuni pas loin de 12 000 visiteurs, si je dis pas de bêtises, autour de Hansel et Gretel, avec l'opéra d'Humperdinck d'un côté, plutôt la suite musicale cette fois-ci, et Lorenzo Mattotti et son livre chez Gallimard de l'autre. Le mariage s'est extrêmement bien passé. Pour la Philharmonie, c'était la première fois qu'ils arrivaient à faire 4 concerts famille pleins. Des milliers d'enfants ont vu ça, c'était vraiment hyper chaleureux, hyper beau. C'est pour moi, pour le coup, un premier galop d'essai que je considère être une réussite. Et puis nous avons ce spectacle que nous avons fait toujours avec l'Orchestre de Paris autour de Monstres et Fantômes d'Asie avec Kim Jong-gi et toujours l'Orchestre de Paris, mais cette fois-ci en dispositif beaucoup plus minimal d'orchestre de chambre qui fonctionne très bien également. Et enfin évidemment le concert autour du jazz avec Jazz à Vienne, avec Brecht et Chassol, qui là est une fois encore quelque chose qui va être très étonnant, puisque Brecht dessine en noir et blanc sur tablette, il n'a pas l'habitude. Chassol a changé ses dispositifs vidéo, donc le dialogue entre les deux est en train de se créer. Je suis très pressé de voir le résultat.
Et puis enfin, à Angoulême, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir ce week-end ?
Énormément de choses, j'ai envie de dire, en fonction de vos goûts et vos affinités, vous avez vraiment l'embarras du choix. Si vous êtes fan de BD indépendante, il y aura le laboratoire PFC. Si vous aimez la bande dessinée de super-héros, il y a une immense exposition de 600 mètres carrés autour de Batman à l'occasion de son anniversaire. Si vous êtes fan de manga...
On en parlera demain avec Frank Miller.
Tout à fait, qui s'est déplacé juste pour l'occasion, ce qui est vraiment pour nous un événement. Voilà, si vous êtes fan de manga, il y a 6 auteurs japonais qui sont présents dans le festival. Il y a 2 expositions, l'une sur Taiyo Matsumoto, l'autre sur Tsutomu Nihei, qui sont 2 auteurs plutôt adultes avec un dessin qui sort des codes du manga. Il y a évidemment l'exposition sur Manara, l'exposition sur le Grand Prix Corben, qui est vraiment pour nous, qui a été un véritable sacerdoce. On a dû parcourir le monde pour essayer de recomposer un peu son œuvre, puisqu'elle est disséminée un peu partout. Donc voilà, je pense qu'en fonction de vos affinités, vraiment, vous aurez de quoi vous amuser.
Merci Stéphane Beaujean.
Merci à vous Toufik.
Il est 7h du matin, faut se réveiller. Oh, j'ai sommeil. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Ouais, c'est pas tout à fait ça. Je trouve plus ma brosse à dents. Quel passé celle-là encore. La bleue est à mon père. La rouge est à ma mère. La jaune est à mon frère. Vous avez pas vu ma brosse à dents. Tiens, on est lundi aujourd'hui. Ah, pour demain j'ai un devoir d'anglais. J'aimerais bien avoir Paul McCartney pour m'aider.
On va parler de musique et de bande dessinée. On va parler de cette bande dessinée aussi éditée par Dargaud, French Pop, avec Hervé Boris et Hervé Tancrel. L'un est avec moi ici au studio à Paris, l'autre est à Bordeaux. Et tiens, si on commençait par parler de Jacqueline Taïeb, 7h du matin, c'est toute une époque.
Ben oui, effectivement, ouais, les années 60.
C'est Tancrel qui
ouais,
parle.
C'est Tancrel, ouais. Alors ici à Paris. Ben oui, toute une époque, les fameuses Crazy Girls ou Crazy Demoiselles, comme on les a appelées dans le livre. Toutes ces jeunes filles qui ont parfois fait qu'un 45 tours ou à peine un
carrière
album.
Très courte, ouais.
Ouais, et qui ont été redécouvertes finalement il y a pas si longtemps, hein, par plein de compilations, notamment les compilations Wiz de chez Born Bad ou autres, dont notre génération est finalement tombé amoureux d'une certaine manière, quoi.
Hervé Bourris, je voulais intervenir.
Oui, bien sûr, vous avez raison.
Alors, c'est un phénomène intéressant et dont on parle dans le livre, c'est que typiquement les crazy mademoiselles genre Jacqueline Taieb ont été plutôt redécouvertes par les Japonais, les diggers anglais, américains.
Mm-hmm. Comme Pierre Barou d'ailleurs.
C'est l'étranger qui nous a fait redécouvrir notre patrimoine.
Puisqu'on parle de musique avec deux dessinateurs et que le sujet du jour c'est comment faites-vous pour nous faire ressentir la musique à travers vos dessins, il faudrait quand même signaler qu'il y a beaucoup de bandes dessinées qui parlent de la musique. Et à chaque fois, le dessinateur s'arrange pour que son trait épouse un peu les vibrations de cette musique. On pense bien sûr à cette grande réussite de David Prudhomme autour du Rebetiko. Mais on peut aussi faire, comme vient de le rappeler Stéphane Beaujean, un coucou à Blutch, à Loisel et à d'autres. Signaler aussi le beau livre aux éditions Martin de Halleau, Monk, sur Télénous Monk, signé par Youssef Daoudi. On se souvient aussi de Margerin et de son héros Lucien. Vous, dans French Pop, ce n'est pas seulement les musiques qui vous ont percé, puisque vous avez décidé que pour vous, la French Pop, ça commençait carrément avec la Marseillaise, elle se terminait avec, allez, disons, Moi à la Squale, le rappeur, c'est-à-dire quelque chose de très récent. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de voir comment le peuple français, j'allais dire, ou la France a évolué avec les musiques.
Hervé Bourris, tu veux répondre à ça?
En fait, il fallait d'abord définir ce qu'on voulait dire par French pop. En général, il y a des gens qui appellent le livre le bouquin sur la chanson française, là, mais c'est pas vraiment le cas. Nous, on a voulu parler de la chanson française qui entre dans les mouvements musicaux populaires depuis l'après-guerre, comme le rock, le hip-hop, l'électro. Et voilà, donc c'est un truc assez particulier et qui commence vraiment dans les années 50. Avant, on a fait une genèse, pour rigoler, on a parlé de la Marseillaise parce que c'est connu dans le monde entier. Et puis, il y a eu des gens comme Trainé qui ont fait venir le jazz dans la chanson. Mais pour le coup, ça commence vraiment dans les années 50, quand Boris Vian et ses amis ont commencé à faire des rock pastiches. Et en même temps, la mode de l'exotisme avec Dalida, Gloria Lasso, tout ça.
Et tout ça raconte.
Donc nous, on parle d'une chanson française qui est influencée par l'étranger, en fait.
Et vous représentez tous ces groupes, ces chanteurs emblématiques, en reprenant très souvent les pochettes, en racontant des petites anecdotes, des petites histoires. Est-ce que vous vous êtes posé la question de comment faire aussi partager le contenu de leurs chansons, de leur musique, à travers votre trait, à travers votre dessin?
Il y a deux formes finalement de dessin, maintenant trois presque en fait, puisqu'il y a les dessins d'Hervé Bourris qui ponctuent le livre, tous ces petits dessins cabochons, mais aussi des sortes de dessins patchwork qui peuvent se retrouver. Il y a les dessins de pochettes d'albums dont je me suis occupé. Donc il y en a à peu près, je crois que 67 hein, pochettes, puisque c'est une chronologie et donc par année on va mettre en exergue un album qui nous semble être l'album important ou représentatif de cette année. Et puis il y a aussi des petites bandes dessinées, des petits strips où là il y a un petit peu de narration. Mais c'est vrai que pour revenir à cette histoire de représenter la musique presque en mouvement, si je puis dire, on avait moins cette problématique que dans une bande dessinée où on parlerait vraiment d'un groupe, ou je pense notamment à cette bande dessinée Les Deux Pieds dans le Béton qui parlait du punk en Allemagne, ou je sais même plus exactement, mais qui était très vif, justement très
à la manière de Menu qui lui aussi quand il parle de ses passions rock et punk, il éclate les cases, la page.
Ouais. On a des dessins très vibrants, et là pour le coup nous on n'était pas tenu à ce point là puisqu'on est plus sur
sur l'inventaire,
chose, voilà, et puis avec une voix off, et il n'y a pas une narration aussi forte, donc on était plutôt tranquille là-dessus. Graphiquement, on était plus dans une quelque chose d'illustratif en soi quand même.
Hervé Bourris,
pour ce genre de livre, moi j'ai choisi d'exploser en fait graphiquement. C'est pas vraiment le dessin en tant que tel qui va être musical, parce que je sais pas ce que ça veut dire. Peut-être chez Blutch, oui, il a un dessin de jazz. Mais moi j'ai un dessin et c'est plus par le graphisme, la mise en page, l'utilisation des textes,
Et des couleurs, en fait, et des couleurs aussi.
Patchwork là, mmh. et par les couleurs, mmh. qu'il va y avoir un truc, effectivement, des notions d'harmonie. Les pages en face à face, on a toujours une page de gauche qui est dessinée par Hervé Tancrel, qui est le disque de l'année. Et en face, on va avoir un patchwork d'informations annexes. Et c'est, il va y avoir une harmonie des couleurs. Je fais en sorte que la colorisation de la page de droite corresponde aux couleurs qu'a choisi Hervé à gauche.
Et l'idée, c'est de remettre les chansons emblématiques, les tubes emblématiques, dans leur contexte de l'époque.
Oui. Oui, c'est ça. Bah, en fait, à travers l'histoire de la musique, on raconte presque l'histoire d'un pays. Donc, forcément, je sais pas, je pense à Bob Azam. L'arrivée des yéyés, c'est l'arrivée d'une jeunesse, l'explosion du hip-hop en 1990, c'est aussi les gens qui sont issus de l'immigration qui déboulent dans cette culture-là.
Et en 1990, c'est quoi? C'est plutôt Carte de séjour, c'est ça?
C'est le début du hip-hop, c'est IAM, c'est NTM, Tonton David.
Bon, et avant, évidemment, il y a eu
Rachita. C'était né en France. Hein. Mais ceci dit, dans ce petit livre French Pop, Boris et Tancrel qui paraît chez Dargaud, il y a aussi une envie de revenir sur le graphisme de l'époque ou pas du tout?
Sur le graphisme de l'époque, bah alors oui, en tout cas Hervé Bourris, lui, a cette capacité à dans ses pages qui sont pourtant voilà, qui sont pleines, hein, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations, à retrouver justement les typographies de l'époque, les slogans aussi, ainsi que les phrases de tirées de chansons qui nous ont marqué.
Des fois même des dessins de l'époque, il y a du Wolowski qui est là, qui apparaît dans la page 68.
Sample graphique. Mm-hmm.
Ouais. Ouais, effectivement, ça
ressemble à du sample. Parfait, c'est vrai, c'est une bonne
discussion. Exactement, c'est du sample. Ouais.
C'est ça.
Ouais, et il a cette capacité, Hervé, en plus, à réussir à faire des choses harmonieuses, alors que pourtant, il y a des dessins à la fois très différents, des typographies très différentes, beaucoup de textes, ça pourrait être quelque chose, une sorte de Bloubi-Boulga, et enfin, ça ne l'est pas. Donc c'est.
Vous avez bien travaillé.
Ouais, enfin, Hervé Bourris, pour ses pages patchwork,
a bien travaillé. Main dans la main, comme Élie et Jacquenot.
Exactement.
Main dans la main, Hervé Bourris et Hervé Tancrel signent ce French Pop, le petit livre French Pop. C'est au rayon bande dessinée, c'est édité par Dargaud. Je ne sais pas si ça s'adresse aux amateurs de la bande dessinée, c'est plutôt ceux qui aiment la musique, donc ils vont acheter ce...
Les deux, il y a ceux qui connaissent notre travail, qui vont être attirés aussi par le nom d'Hervé Bourris ou mon nom à moi. Et puis ceux qui connaissent bien aussi tous les petits livres qu'Hervé a déjà fait, notamment celui avec sur la Black Music avec le dessinateur Bruno ou celui sur les Beatles. Et puis effectivement, je pense qu'il y a des gens qui connaissent, qui nous connaissent ni lui ni moi et qui vont juste être attirés par cette idée de livre sur une musique, sur la musique française, enfin French Pop.
Ouais, je crois que c'est très partagé au niveau du public.
C'est l'intérêt de ce genre de livre aussi d'ailleurs, parce que pour une fois, pas s'adresser toujours au même public, c'est bien aussi.
L'aventure de la musique populaire française des années 50 jusqu'à aujourd'hui, racontée mais notamment à travers tous les visuels qui accompagnaient les disques et les groupes. Est-ce à dire que vous avez dû négocier les droits de reproduire en dessin les pochettes, les portraits des chanteurs et chanteuses cités dans votre livre?
Mais chut! Qu'est-ce qu'il raconte? On va avoir des problèmes.
La réponse est non.
Non, c'est une réinterprétation. Puis s'il fallait demander à tous les ayants droit,
dans le cadre de l'hommage,
on serait fou, on deviendrait fou, puisqu'il faudrait presque demander aux photographes ou parfois aux maisons de disques ou alors aux ayants droit des chanteurs ou des chanteuses. Non, ça serait impossible de faire des livres comme ça.
Bon, vous avez eu des réactions des chanteurs que vous avez représentés dans votre livre?
Oui. Hervé, tu veux...
Oui, c'est un grand plaisir.
Ouais, c'est vrai.
On a eu beaucoup de bons retours, de Barbara Carlotti, Julien Gasque, Dominique A avec toi, Hervé.
Ouais, effectivement, ouais. Mmh.
Voilà, des gens comme ça, des disquaires aussi, Étienne Dao.
Bon, bah,
on est très content.
Parfait. Qu'est-ce que vous allez faire à Angoulême? Vous allez parler du petit livre French Pop, bien sûr.
On va voir des vieux copains aussi, qu'on n'a pas vu depuis longtemps.
Ouais. Comme on Apollo va dédicacer qui vient à la Réunion. Le livre samedi au stand d'Arbou.
Mais ouais, on va dédicacer surtout, ouais, quand même.
Bon, beaucoup de dessinateurs font de la musique.
C'est vrai.
Comment expliquer cela?
Moi, j'ai une théorie.
Ah là? Ah. Hervé Bourris de Bordeaux va nous donner enfin la réponse à cette question qui nous taraude depuis des années.
C'est pour avoir le sentiment d'immédiateté, de retour du public immédiat. Le concert, c'est un truc qu'on peut pas connaître. Nous, on met des mois, des années à faire des livres, tout seul dans notre coin. Et on rencontre le public de temps en temps, comme ça, en festival. On est assis, eux, ils sont debout en face. C'est assez bizarre, un peu faussé. Et donc, tout est décalé. Avec la musique, quand on en fait sur scène, on a un retour direct, on a une sensation directe de notre création et de son retour par le public.
Tancrel ?
Oui, non, c'est vrai. Moi, j'ai fait un peu de musique. D'ailleurs, j'ai chanté à une époque. Bon, je le ferai plus jamais. Je crois que j'ai compris que c'était pas là que je me débrouillais le mieux. Mais effectivement, et puis c'est une appétence pour les formes artistique en général aussi, mais oui, c'est pas faux. Puis il y a les fameux concerts dessinés, notamment qui sont apparus comme ça il y a quelques années et qui nous donnent cette possibilité aussi parfois de monter sur scène, pas pour chanter ni pour jouer un instrument, mais pour dessiner. Mais...
Généralement, les dessinateurs de bande dessinée font du rock et traditionnellement c'était deux sous-cultures.
C'est vrai.
Donc,
aussi.
Je pense ça s'est rejoint. Puis il y a eu Metal Hurlant, tout ça.
Et puis il y a eu toute cette période qui a été balayée par le numérique, c'est-à-dire l'époque florissante des maisons de disques où parfois, et seulement parfois, on demandait à un dessinateur de signer la couverture d'un disque.
Ça arrivait souvent, hein, dans les années 80 notamment,
ouais,
70-80.
Ouais. Par exemple, s'il fallait retenir justement un visuel réalisé par un auteur de bande dessinée pour un disque qui reste encore connu de nos jours.
Moi, je pense à Chaland pour l'affaire Louis Trio.
Pas mal, bravo.
Je pense à un disque de Guy Béard dessiné par Moebius, un truc qui se passait dans l'espace.
Puis, oh bah voilà.
Puis, il y en a eu plein, puis il y a eu Serge Clair.
Ouais, je pensais à Menu pour les satellites. Ouais, c'est marrant, ben oui. Voilà, des choses comme ça.
Et s'il fallait vous demander, et je terminerai là-dessus, à vous deux Hervé, c'est-à-dire Hervé Bourris et Hervé Tancrel, d'imaginer un visuel pour un chanteur que vous aimez bien, un chanteur, un groupe, une chanteuse.
Ça serait pour Hervé Villard, forcément.
Ça, c'est Hervé Bourris. OK. Et pour Hervé Tancrel?
Pour... j'aimerais bien pour Émile Sornin, Forever Pavot.
Ah oui, ça
ouais.
Serait cool.
Ouais, ça serait chouette.
Merci d'avoir été mes invités, Bourris et Tancrel, pour le petit livre French Pop. Bon festival d'Angoulême à vous. Le petit livre French Pop édité par Dargaud. Merci à France Bleu Gironde, puisque Bourris nous parlait à partir des studios de Bordeaux. Merci à vous, Tancrel.
Merci pour l'invitation.
Allez, on termine en musique.
Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient. Stade Smith sur pied, le regard froid. Ils scrutaient la salle à notre voix quand cul roulait autour du bras. Ray-Ban sur la tête, sur vêtements taquini. Pour les plus classes, des mocassins, Nebuloni. Dès qu'il passait, Caméo, Midnight Star, SOS Bond, Delegation ou Chalamar. Tout le monde se levait, des cercles se formaient. Des concours de danse, on peut partout s'improviser. Je te propose un voyage dans le temps. Via planète Marseille, je danse le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia jusqu'à ce que la soirée vacille. Une bagarre au fond et tout le monde s'éparpille. On râlait que c'était nul, que ça craignait. Le samedi d'après on revenait tellement qu'on s'emmerdait. J'entends encore le rire des filles qui assistaient au palais. Des Renault 12 sur le parking. À l'intérieur, pour elles c'était moins rose.
Oh cousine, tu danses ou je t'explose?
Voilà comment tout s'aggravait. En un quart d'heure, le frère aura piqué.
Oh comment tu parles à ma soeur?
Viens avec moi, on va se filer.
tête à tête, je vais te fumer derrière les cyprès. Et tout s'arranger ou se régler à la danse. L'un disait fils, t'y a aucune chance. Et les filles, mes chaussures brillent, hop, attends, je brille, je te bousille, tu te rhabilles et moi je danse sur le mia. Comme les voitures, c'était le défi K8-73, JM 120, mon petit, du grand voyou à la plus grosse mon Vietnam sur le volant. Avec la moquette, par un soleil pionnier sur le pare-brise arrière. Dédé et Valérie écrit en gros
sur mon père.
La bonne époque où on sortait la 12 sur Magic Touch, on lui collait la.
Vous êtes sur France Culture, dans un instant les informations de 6h30. À suivre, le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Chaque jour à 16h sur France Culture, la méthode scientifique par Nicolas Martin.
Pourquoi la ceinture de Kuiper aux confins de notre système solaire peut-elle nous en raconter les origines? La loi de Moore qui prévoit l'augmentation exponentielle des capacités de nos ordinateurs est-elle en train de s'enrayer? Une foule se comporte-t-elle comme un fluide? Et l'homme de Flores est-il apparu deux fois dans l'arbre de l'évolution? Toutes ces questions n'appellent pas une, mais plusieurs réponses. Nous les examinerons toutes méthodiquement cette semaine dans la méthode scientifique.
La méthode scientifique, de lundi à vendredi à 16h et sur franceculture.fr.
Un ami, c'est quelqu'un de fidèle.
Voir le monde, au plus près, chaque jour à 17h, LSD, la série documentaire. Perrine Cavran.
Amitié d'enfance, amis imaginaires, duos éternels, amis disparus ou bandes de copains. Cette semaine, LSD cherche à se faire des amis et explore ce lien indispensable et mystérieux qui se situe quelque part entre l'amour et la fraternité.
Un ami, ça sert à faire confiance.
Un ami, ça sert à t'épauler dès que t'es tout seul et dès que t'es triste.
Histoire d'amitié, LSD, la série documentaire, de lundi à jeudi à 17h et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Renault choisit ce jeudi le successeur de Carlos Ghosn. A priori, Jean-Dominique Senard, actuel patron de Michelin, prendra les rênes du premier groupe automobile français. Son portrait à suivre. La confiance des Français dans les médias a atteint son plus bas niveau depuis le lancement du baromètre annuel de La Croix en 87. Les images montées, expliquées, notamment ne captivent plus, vous l'entendrez. Et puis au Venezuela, le chef de l'opposition s'est proclamé président par intérim face à Nicolas Maduro. Il est soutenu par les États-Unis notamment, tension au plus haut dans le pays et chez ses voisins. Le pape François est justement au Panama pour les Journées mondiales de la jeunesse. Reportage dans ce journal. Une page se tourne donc chez Renault. C'est ce matin que le constructeur devrait acter le départ de Carlos Ghosn en conseil d'administration. Un conseil qui doit se tenir à 10h au siège du groupe à Boulogne-Billancourt, à l'ouest de Paris. Un tandem devrait remplacer l'indéboulonnable patron, aujourd'hui pris dans une affaire judiciaire au Japon pour des soupçons de fraude financière. Thierry Bolloré devrait donc devenir directeur général chez Renault. Et Dominique Senard, actuel patron de Michelin, bien connu dans l'industrie automobile. Dominique Senard devrait lui prendre la place laissée vacante au conseil d'administration. Son portrait est signé ce matin Maxime Deps.
C'était il y a un an et demi et le discours est quasi prémonitoire.
Nous entrons dans une période d'une forme de contestation, d'une forme de capitalisme débridé. Le monde entier nous regarde. Merci beaucoup pour votre attention.
En 2017, devant un parterre de patrons, Jean-Dominique Senard est alors candidat à la présidence du MEDEF. Il doit renoncer quelques semaines plus tard. La raison, son âge, 65 ans. En privé, l'homme en plaisante aujourd'hui. S'il peut encore servir, alors tant mieux. Réputé plus social que la moyenne, on vante sa patte de velours souvent. Mais l'homme s'est aussi tranché, comme en 2013, où il assume la suppression de plus de 700 postes sur le site Michelin de Jouer-les-Tours.
Je vous le dis, des usines de petite taille ne peuvent plus être compétitives en France. Aujourd'hui, ça n'est pas possible.
Avec lui, chaque suppression de poste doit toutefois être justifiée, lui reconnaît un syndicaliste. À chaque fois qu'il a voulu contester un licenciement, Patrick Beauvolenta, délégué du personnel chez Michelin, a pu s'en expliquer en tête-à-tête avec un patron dont il vante l'humilité.
Vous le croisez au self, il est comme tout le monde, il porte son plateau pour le tri des déchets, il passe à côté de vous, « Bonjour Monsieur Valentin, on boit un petit café ensemble », et puis voilà, c'est parti, et puis vous vous retrouvez dans son bureau. Ah, c'est vrai que c'est pas du tout la même personne hein, que Carlos Ghosn, c'est sûr.
Fils de diplomate, Jean-Dominique Senard a sans doute de qui tenir. Sur le papier, pour beaucoup en tout cas, il est le remplaçant parfait, l'Antigone par excellence.
Nouvelle journée de grève et de manifestation dans l'éducation nationale ce jeudi. Plusieurs syndicats enseignants du secondaire ainsi que des organisations de jeunesse appellent à la mobilisation contre de nombreuses réformes. Réforme du lycée, du baccalauréat, contre aussi le manque de reconnaissance des professeurs. Le grand débat national continue sur la plateforme dédiée. 1045 réunions ont été recensées un peu partout en France. Aujourd'hui, Emmanuel Macron reprend la route et son micro. Il sera dans la Drôme, mais il devrait moins parler, écouter davantage. Ce midi, le président de la République va rencontrer Laurent Wauquiez en tant que président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Puis il retrouvera une soixantaine de maires et non 600 comme précédemment. Changement de forme donc pour cette troisième réunion auprès des élus locaux. Le débat s'annonce également plus court, moins médiatisé. Des médias envers lesquels la confiance s'érode, c'est le résultat du baromètre annuel Lacroix réalisé par Kantar Sofres. La confiance atteint son plus bas niveau dans cette enquête réalisée entre le 3 et le 7 janvier dernier. Les gilets jaunes avaient alors pris une grande part de l'actualité et seul un tiers des Français interrogés s'en disent satisfaits. Il est majoritairement reproché aux journalistes d'avoir dramatisé les événements à 67%. Notons que le baromètre ne s'est pas penché sur certains types de médias comme la plateforme Brut qui diffuse des images en direct sans aucun montage. Un manque de transparence sur la fabrication de l'information selon Guillaume Goubert, directeur de La Croix.
Je pense qu'une des choses qu'on pourrait expliquer aux téléspectateurs, c'est qu'un média brut, ça n'existe pas. Ce qui est filmé ou enregistré par brut, c'est une partie de la réalité, une petite partie de la réalité. Et il faut qu'elle soit perçue comme telle. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité des événements qui sont en train de se passer. Précisément, nous, journalistes, un de nos savoir-faire, c'est de savoir recueillir des informations de différentes sources, dans différents lieux, et d'essayer de les pondérer les unes par rapport aux autres. Alors encore une fois, il faut qu'on soit capable de démontrer qu'on fait ça de manière loyale, aussi transparente que possible. Et effectivement, il faut sans doute qu'on donne accès davantage à nos coulisses, mieux faire comprendre quelles techniques nous utilisons, quelles difficultés nous rencontrons. Nos lecteurs, nos auditeurs, nos téléspectateurs ne savent pas ce que c'est que de recueillir des témoignages et ensuite de faire un choix entre ces témoignages, pourquoi on en privilégie certains par rapport à d'autres. Les journalistes aiment bien raconter comment ils travaillent. Ce qu'il faut, c'est qu'on en fasse sans doute un usage un peu plus technique que par le passé.
Alors, quelle solution pour une meilleure relation entre le public et les médias ? C'est le sujet du hashtag diffusé demain matin sur France Culture. Vous pouvez encore témoigner grâce au mot-clé « Mon journalisme idéal » sur les réseaux sociaux. Le géant américain a été condamné à payer 50 millions d'euros en France, mais Google va faire appel. La Commission nationale de l'informatique et des libertés lui avait reproché de ne pas assez informer ses utilisateurs sur l'exploitation des données personnelles. Il y a ce matin, pourrait-on dire, deux présidents au Venezuela. Juan Guaido, président du Parlement et chef de l'opposition, s'est proclamé hier président par intérim. Il annonce également des élections libres dans le pays. Il a immédiatement été reconnu par les États-Unis et ses alliés dans la région. Mais l'armée vénézuélienne, l'armée a rejeté cette autoproclamation. Des violences ont éclaté à Caracas entre les forces de l'ordre et les partisans de l'opposition. Le président Nicolas Maduro parle, lui, d'un coup d'État et d'y rompre les relations diplomatique avec Washington. Une tension vénézuélienne qui touche la population jusque dans les pays voisins. Rappelons-le, plus de 2 millions de personnes ont quitté le Venezuela en 3 ans à cause de la crise sociale. Au Panama, donc, ils sont nombreux à soutenir Juan Guaido et certains l'ont montré il y a quelques heures à peine face au pape François. Le souverain pontife est arrivé cette nuit au Panama pour les Journées mondiales de la jeunesse et les migrants venus nombreux dans le pays comptent sur lui, Mathilde Imberti.
Saoul ne quitte jamais le drapeau du Nicaragua. Il le serre fort contre lui dans la foule des JMJ. L'événement, l'effet de groupe, le rendent soudain plus fort. À 18 ans tout juste, il vit seul au Panama, contraint de fuir son pays suite aux protestations étudiantes.
Je me suis engagé dans les manifestations de ma ville. Ils ont capturé certains compagnons de lutte. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Je ne demande rien à personne. J'ai fui pour une question de survie, tout simplement.
Franchir les frontières pour survivre, Maria l'a vécu également. Au Venezuela, son père, chef d'entreprise, est menacé de mort. Elle tente de se construire un avenir au Panama.
Mon père pensait retourner au Venezuela une fois la crise résolue, mais la situation empire. Et moi et mon jeune frère n'avons aucun avenir là-bas. C'est difficile au Panama, il y a des choses auxquelles je n'ai pas accès à cause de ma nationalité. Certains concours scolaires, par exemple. Et ma famille a du mal à s'intégrer par le travail.
del trabajo con mi familia fue muy difícil.
Le Panama ne possède pas de chiffre officiel sur les migrants. Il serait 10% de la population. Tous ces jeunes attendent du pape des paroles réconfortantes pour eux et sans concession pour les puissants.
Lui est une personne que l'on écoute. Il est influent. Sa voix porte au moins. La nôtre, personne ne l'écoute.
Dans une toute première déclaration, c'était dans l'avion le menant au Panama. Le pape François a jugé que le projet de mur entre les États-Unis et le Mexique était une folie.
En Tunisie, le président vient de l'annoncer, chaque 23 février sera désormais la fête nationale de l'abolition de l'esclavage. Le pays est l'un des premiers pays à l'avoir aboli en 1846, un 23 janvier justement. Et pourtant, Maureen Mercier, l'esclavage réapparaît en Tunisie.
Sfax, poumon économique du pays, cette femme de Côte d'Ivoire a réussi à fuir ceux qui l'exploitaient.
Il y a des trucs que tu n'as jamais vécu dans ta vie. Il y a des manières de se comporter avec un être humain que vraiment quand les Tunisiens, c'est pas facile.
En Tunisie, de riches familles emploient des migrantes d'Afrique subsaharienne comme domestiques. Enfermées, privées de leur passeport, elles doivent récurer quasiment sans arrêt durant des mois et sans salaire.
Souvent on te dit, oui, tu es mon esclave, tu es ici, tu travailles pour moi, tu es mon esclave. Tout ce que je t'ai dit de faire, tu dois le faire. Moi je travaille, je commence mon travail à 8 heures. Jusqu'à ce que les enfants dorment. À minuit, je suis avec eux.
Souvent, ces femmes racontent que la seule fois qu'elles ont pu mettre le nez dehors, escortées par la famille tunisienne, c'est pour subir des tests médicaux. Objectif, s'assurer qu'elles n'ont pas le VIH. C'est ce qu'a vécu cette autre jeune femme qui préfère garder aussi l'anonymat. Elle a vite compris pourquoi.
Mon patron voulait sortir avec moi, toujours me proposait. Et quand je refusais, je voyais que le travail, il augmentait les tâches. Il augmentait les heures. Quand je me plains, il m'a dit d'aller me faire voir.
Les migrants sont de plus en plus nombreux à tenter de rejoindre l'Europe via la Tunisie. Les femmes sont donc de plus en plus nombreuses à être happées ici par les trafiquants. La Tunisie, à genoux économiquement parlant, n'a pas les moyens de lutter contre ces trafics. Pour les associations et la société civile, l'Europe, qui fait pression pour que la Tunisie gère ces migrants qu'elle ne veut pas voir débarquer sur son sol, l'Europe nourrit ce retour de l'esclavage qu'on espérait banni.
Maureen Mercier depuis Tunis. Le temps de ce jeudi en France s'annonce plus calme dans l'ensemble avec le retour de belles éclaircies. Risque de verglas et de neige sur la Corse ce matin. Comptez moins 4 degrés à Nancy, 0 à Paris, 1 degré à Lyon, 6 à Nice. Il est 6h40. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Votre journal des idées à présent. Le retrait des troupes oui. américaines en Syrie a été annoncé. Il reste toutefois assez flou, sans précision, sans calendrier. Et cela illustre, Jacques, la confusion de la communication internationale du président Donald Trump.
Et oui, et en matière de diplomatie, c'est particulièrement fâcheux, sans compter les conséquences désastreuses sur le terrain pour les alliés kurdes engagés dans la guerre contre l'organisation État islamique. Comme le rappelle Amanda Sloot dans Le Monde, le secrétaire à la Défense, Jim Mattis, a démissionné à la suite de la décision impulsive du président. Le conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, et le secrétaire d'État, Mike Pompeo, ont dû partir en tournée au Proche-Orient pour rassurer des alliés inquiets et leur expliquer la stratégie américaine. La spécialiste de la Méditerranée orientale souligne que lorsque Trump annonce une décision par une déclaration ou un tweet, ses conseillers doivent enclencher un processus de révision de la ligne politique afin d'appliquer ses orientations. Avec, dès le départ, un dommage collatéral conséquent, les délibérations ou l'examen des différentes options sont réduits au minimum. Et surtout, une perte de crédibilité de la diplomatie américaine. Les dirigeants étrangers hésitent désormais à faire confiance à des émissaires dont les messages peuvent être contredits par le président. Et inversement, dans un article de la revue Le Débat, l'historienne Maya Kandel analyse la politique étrangère américaine aujourd'hui. Impulsivité, colère et ressentiment sont par nature antinomiques de la civilité diplomatique. Un comportement belliqueux dénote une absence d'expérience en matière de défense. Les déclarations intempestives à usage interne et à destination de la base électorale, quand on n'a que cette légitimité politique, souffrent à l'échelle internationale d'un problème de traduction. De nombreux exemples, de Ahmadinejad à Duterte en passant par Trump, montrent que les expressions de colère sont souvent traduites dans les médias de manière plus belliqueuse que ne l'étaient les sorties originales. La traduction est la langue commune de l'humanité. Dans un ouvrage édifiant et roboratif publié aux éditions Les Arènes sous le titre « La langue de Trump », Bérangère Viennot témoigne des contorsions auxquelles doivent désormais se livrer les interprètes et traducteurs des propos et discours du président américain. Pourtant, lorsqu'on lit ou qu'on écoute Donald Trump, même quand on n'est pas très fort en anglais, on a l'impression de tout comprendre. Vocabulaire réduit au minimum, phrases courtes, voire hachées. Le problème vient plutôt d'une syntaxe hasardeuse. À l'échelle de la phrase, comme à celle du discours, les éléments qui composent son langage paraissent souvent inachevés et parfois dépourvus de sens, comme s'il commençait un discours mentalement et ne se mettait à l'articuler à l'oral qu'en plein milieu de son raisonnement. Un seul élément récurrent que l'auditeur est toujours certain de retrouver, quel que soit le sujet abordé par le président américain, quel que soit le contexte et le prétexte de l'intervention, c'est lui. Dès sa première interview après l'élection, c'était dans le New York Times, le ton est donné au bout de quelques minutes. On attendait du nouveau président qu'il prenne de la hauteur après sa victoire et aborde les questions de fond. Mais quand il répond aux journalistes, commente Bérangère Viennot, on entre dans un univers linguistique d'une dimension inconnue. À propos d'Hillary Clinton, qu'il avait menacé d'un procès, Caroline Ryan lui demande si ses électeurs ne seront pas déçus qu'ils ne la poursuivent pas en justice. Trump botte en touche et revient sur la campagne, parle de ses électeurs capables de se pointer à 1h du matin pour écouter un discours. C'était le jour des élections, oui, je crois qu'il comprendrait très complètement. Pour traduire les propos du président américain, il est parfois nécessaire de préciser, comme ce journaliste dans Le Monde, les fautes de syntaxe ont été volontairement conservées. Dans le domaine des relations internationales, ça peut donner des résultats improbables, comme dans cette première interview. Est-ce que ce ne serait pas chouette qu'on s'entende réellement bien avec la Russie ? Est-ce que ce ne serait pas chouette si on attaquait l'État islamique ensemble ? Ce qui, soit dit en passant, en plus d'être très dangereux, ça coûte beaucoup d'argent. On s'est beaucoup intéressé à son usage compulsif de Twitter et il est vrai que c'est un bon moyen d'observer sa façon de parler, ses codes de ponctuation exclamatifs, l'occurrence immodérée de certains mots comme « great » et son superlatif « greatest », l'absence totale d'autres vocables comme « regret ». C'est que Twitter est le meilleur moyen de communiquer du ressenti comme si c'était des faits, commente la traductrice. C'est le royaume des tripes qui parle. L'hebdomadaire Le 1 a publié une anthologie des tweets présidentiels les plus extravagants ou indignes comme celui-ci. Si ces crétins qui ont tué tous ces gens à Charlie Hebdo avaient attendu, le journal aurait capitulé. Pas d'argent, pas de succès. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure de retrouver les enjeux internationaux. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Avec au sommaire aujourd'hui le traité franco-allemand d'Aix-la-Chapelle, Der Vertrag von Aachen, auf Deutsch.
C'est ça, avec une nouvelle responsabilité franco-allemande. C'est ainsi que le président Macron a voulu présenter ce traité de coopération et d'intégration signé mardi avec Angela Merkel à Aix-la-Chapelle. Effectivement, signal politique à 4 mois des élections européennes, mais pour dirigeants eux-mêmes en lutte dans leur propre pays. Bonjour Hélène Millard de la Croix.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire et de civilisation germanique à la Sorbonne. Auteur, ça va nous intéresser, du défi européen de 1963 à nos jours. Défi qui passe par le couple franco-allemand. 56 ans, jour pour jour, après le traité de l'Élysée. C'est ce nouveau texte relativement court. 28 articles, mais 15 projets prioritaires. On en reparlera. Très vite conclu, il y a un an par les deux parlements. Est-ce que ça en fait un traité pour le symbole de circonstances ou ça témoigne d'une volonté pragmatique selon vous ?
Oh, ça ne s'exclut pas. On peut aussi avoir le symbole et une volonté pragmatique. Je crois qu'on est très clairement dans une volonté pragmatique qui a un contexte perçu comme de plus en plus menaçant pour le projet européen. Or, on sait que le couple franco-allemand s'est conçu dès le début et même dès 63 comme étant le cœur et le moteur du projet européen. Et il y a une urgence aussi parce que dans les deux pays, les dirigeants sont un petit peu secoués, ballottés. Ils auraient l'un et l'autre d'autres préféré que ce traité fût signé il y a un an. Il aurait été moins attaqué. Mais là, bon, on peut peut-être le prendre comme un défi face aux obstacles.
Alors, il y a un an, justement, c'était le Parlement français, il me semble, qui le premier validait l'idée de ce traité, qui avait plus ou moins été énoncé dans le discours de la Sorbonne d'Emmanuel Macron. Donc là, c'était fin 2017, où il insistait sur la sauvegarde de la souveraineté. Est-ce que ça veut dire que c'est un traité qui a principalement été porté par les instances françaises et la volonté du président?
Alors, on le présente volontiers comme ça. Il a une genèse qui va un petit peu plus en arrière, parce que l'idée de faire un nouveau traité de l'Élysée, c'est-à-dire en fait de l'adapter aux défis du temps présent, parce qu'en 1963, il y a des tas de sujets et de questions qui n'existaient pas, ça a déjà été lancé par François Hollande dans la campagne de 2012. Il n'y a pas eu du tout de réponse allemande, parce que l'Allemagne attendait que la France fasse des réformes. Et puis, en effet, Emmanuel Macron, dans le discours de la Sorbonne en septembre 2017, a clairement dit qu'il faut faire un nouveau traité de l'Élysée, et ça a été perçu en Allemagne comme une main tendue. Simplement, l'Allemagne a été pendant des mois à la recherche d'un gouvernement, et ça a d'ailleurs été reproché à la chancelière par ses opposants, de dire « vous ne savez pas saisir le moment important ». Alors, entre les deux, c'est vrai, les parlements étaient très actifs, et la relance de cette idée a été portée par un groupe de députés français et allemands, qui, en effet, ont mis sur pied une coopération entre les deux parlements qui est absolument inédite, qui n'existe pas, qui va être annoncée ces jours-ci et qui ont donc signé un accord avec la création d'une assemblée parlementaire de 100 députés qui vont essayer d'être à la fois une force de proposition pour rapprocher les législations entre les deux pays et puis un peu une force de contrôle qui va peut-être donner au Parlement français un petit peu plus de pouvoir par rapport à l'exécutif.
Ouais, vous avez raison de le souligner, c'est pas la moindre des innovations institutionnelles, on pourrait dire, juste encore une fois sur le rapport Angela Merkel-Emmanuel Macron, c'est vrai que même une fois la coalition formée l'année dernière, quand même Emmanuel Macron était venu à Berlin, où il s'était quand même un petit peu accroché avec Angela Merkel. On sentait que Angela Merkel bloquait sur l'idée d'un budget commun. D'ailleurs, on voit que dans le traité, c'est un peu léger, ces questions de budget. Est-ce que vous pensez que c'est un traité qui est parvenu à un compromis, disons, sur ces questions et qui souligne justement le compromis atteint?
Oui, comme toujours, les compromis, les traités sont des compromis, chacun fait un pas vers l'autre. Quand on lit un petit peu entre les lignes, on voit qu'à un certain nombre d'endroits, l'Allemagne a fait des concessions, en particulier en insistant sur les notions de solidarité européenne dès le préambule. En effet, pour autant, un certain nombre des propositions très ambitieuses qu'avait faites Emmanuel Macron dans le discours de la Sorbonne sont peut-être allées à un horizon très très lointain, puisque en Allemagne, on a beaucoup bloqué sur le budget de la zone euro. Et je dois dire que les événements en France actuellement porte beaucoup d'Allemands à considérer qu'ils ont bien raison d'être très circonspects dans une solidarité budgétaire et que finalement il y a des cultures sociales tellement différentes qu'il faut un petit peu ralentir le pas.
D'ailleurs, il est deux fois question seulement de compétitivité dans ce traité, alors que c'était quand même le grand mot d'Angela Merkel l'année dernière, sauvegarde de cette compétitivité. D'un point de vue historique, il y a aussi eu deux renforcements de ce traité ou deux ajouts sous Kohl Mitterrand et puis sous Schröder Chirac en 88. En quoi justement, alors, puisqu'on parlait des innovations institutionnelles, il y a là un renforcement réel des structures de coopération?
Alors le renforcement des structures de coopération tient à la partie institutionnelle qui prévoit une accélération et un approfondissement des dispositifs que l'on avait déjà mis en place sous De Gaulle et Adenauer, qui étaient de rencontres et d'échanges, c'est-à-dire de présence dans les institutions du partenaire pour être le plus possible au courant des projets et des contraintes de l'un et de l'autre, de les intégrer dans sa propre stratégie et d'avoir finalement des positions communes. Il y a dans les ministères français et allemands, depuis une quinzaine d'années, des fonctionnaires qui s'échangent et qui travaillent comme s'ils étaient de la même nationalité. Là, l'idée est d'accélérer encore ce processus, alors avec des choses qu'on peut considérer comme un petit peu symboliques, mais quand même, il y aura donc non seulement des réunions des deux gouvernements, mais aussi la participation tous les trois mois d'un membre du gouvernement de l'autre pays aux réunions du gouvernement de l'autre. Je pense que c'est aussi plus bas qu'il faut voir les choses, parce que c'est aussi une façon d'appliquer l'esprit de De Gaulle et d'Adenauer de 1963, c'est-à-dire de permettre des échanges dans tous les niveaux de la société. Et ce traité insiste aussi beaucoup sur non seulement le local et le régional avec la coopération transfrontalière, mais aussi d'aller plus loin encore dans tous les dispositifs d'échange des sociétés civiles, la création d'un fonds pour financer toutes les initiatives de jumelage, de rencontres. Or, on sait que c'est ça qui a créé avec les années ce réseau très intense, non seulement de confiance et d'amitié, mais aussi d'une culture commune. Et quand on dit qu'Emmanuel Macron a fait tout seul tout ça dans son coin, c'est complètement faux. D'abord, ce n'est pas vrai parce que, comme on l'a dit, ça a été bien annoncé en 2017, les parlements s'en sont aussi saisis, mais parce que toutes ces propositions, quand on les regarde bien, c'est le résultat de la réflexion de tout ce tissu très dense dans différents espaces de la société civile, des villes, des jumelages, des amitiés franco-allemandes, mais aussi des universités, des cercles économiques, des chambres de commerce, qui ont donné des propositions et des idées qui tournent depuis des années et dont les conseillers du président n'ont eu qu'à se saisir pour en faire un texte proposé et élaboré surtout en bilatéral. C'est pas le texte d'Emmanuel Macron, ça a été fait en bilatéral avec l'Allemagne.
Et qui se manifeste, vous l'avez dit, dans les coopérations transfrontalières, également dans la création, plus diplomatique, de 4 instituts culturels franco-allemands qu'on dit intégrés à Rio, Palerme, Erbil et Bishkek, et puis 5 colocalisations d'instituts français et allemands, Cordoba, Atlanta, Glasgow, Minsk et Ramallah. Je cite toutes ces villes parce que c'est intéressant, on voit que c'est quand même des zones de crise et où l'Union européenne est plutôt en minorité. Il y a là une vraie volonté de revenir.
Il y a là une vraie volonté de revenir et de reprendre finalement le schéma qui existe depuis les années 70, je dirais notamment avec Schmitt et Giscard, qui est, mine de rien, de faire à deux, de faire avancer les choses et de parler au nom des Européens qui n'arrivent pas à s'entendre. Et en effet, vous évoquez ces instituts culturels intégrés. Alors ça peut paraître une petite chose qu'on ait un institut Goethe et un institut français dans le même bâtiment et qui travaillent ensemble et qui font des propositions dans des zones difficiles. Ça paraît peu important, mais ce sont en effet ces petits pas qui donnent aussi, non seulement dans la pratique, une habitude de travailler ensemble, mais aussi vis-à-vis du monde extérieur, une image de solidarité. Et c'est la même idée qu'il y a dans la coopération au Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a été tellement l'objet de fantasmes, de fake news et de déclarations jouant sur les ressentiments et faisant peur aux Français en particulier. Il n'est absolument pas question, bien évidemment, que la France abandonne son siège permanent au Conseil de sécurité. Simplement, l'idée est, à la fois dans la conjoncture actuelle, de profiter de la présence de l'Allemagne comme membre tournant du Conseil de sécurité, mais aussi de pousser une demande allemande depuis des années, qui est logique et qu'on peut soutenir, qui est de dire que si on demande à un grand pays, une grande puissance économique, de prendre des responsabilités internationales, il serait aussi logique, non pas de lui donner le siège d'un autre, mais de rajouter des sièges au Conseil permanent de sécurité.
Et avec une Allemagne qui est effectivement parmi les 15 non-permanents cette année, également présente désormais sur des théâtres d'opérations au Sahel et dans la coalition anti-Daesh. On reparlera de ses ambitions diplomatiques et également du projet de défense commune dans une prochaine émission. Mais en tout cas, merci beaucoup pour vos éclaircissements aujourd'hui. Hélène Millard-Delacroix, je le rappelle, professeure de civilisation allemande à la Sorbonne. Et on renverra à votre livre également, Le défi européen de 1963 à nos jours. Et ce n'est pas fini. Bonne journée.
France Culture. L'esprit d'ouverture.
France Culture et l'Odéon Théâtre de l'Europe présentent Les scènes imaginaires, carte blanche au metteur en scène Christophe Honoré. Texte de Marcel Proust, Salinger, François Truffaut, Nathalie Sarraute, lu par une troupe d'acteurs réunis par Christophe Honoré avec la participation de Geneviève Brisac et Dominique Bruguière. Entretien de Christophe Honoré par Arnaud Laporte, réalisation Christophe Hoquet. Réservation au 01 44 85 40 40. Plus d'infos, franceculture.fr.
29e édition du Festival Présence, festival de création musicale de Radio France, du 12 au 17 février. Le compositeur allemand Wolfgang Rimm est le héros de l'édition 2019. 15 concerts, 38 compositeurs, 54 œuvres, 20 commandes de Radio France, 21 créations mondiales, 8 créations françaises. Le Festival Présence à Radio France, du 12 au 17 février. Plongez au cœur de la création.
Bon, il est 16h57.
Et oui, voilà. Absolument, Xavier Martinet,
c'est
bonjour.
C'est l'heure de quoi ? Bonjour, Guillaume Bernard, c'est l'heure des matins. Alors, il paraît que l'un des pires ennemis de l'information est rarement nommé.
Ah, c'est du teasing, hein, ça, ici, il était dans votre dos. Oui, parce qu'aujourd'hui, La Croix publie son traditionnel baromètre consacré aux médias, consacré à la manière dont les Français nous perçoivent, Xavier. Alors, les ennemis évidents sont évoqués, la suggestion, l'argent, les manipulations, bref, tout ça, on connaît. Mais l'un des pires ennemis n'est pas nommé. Je veux parler du buzz, car notre temps de cerveau disponible n'est pas illimité. Et aujourd'hui, eh bien, notre cerveau est menacé en permanence par le bruit, l'insignifiant, le signal faible, qui ne signifie rien, la bataille entre deux rappeurs, l'invitation d'une ministre à une émission de variété, les goûts intimes d'un écrivain. Tout cela en réalité n'a pas grande importance et devient une sorte de bulle informationnelle laquelle enfle sans limite et commentée, recyclée. Alors il y a l'influence russe sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi l'influence de la bêtise qui emplit la conversation nationale de rien. Jadis, on disait dans la presse qu'une fausse info, c'était deux infos, vous savez, il y avait l'info et son démenti. Maintenant, le buzz, c'est une non-information suivie d'une discussion sur cette trop grande information. C'est ainsi, par exemple, que 88% des Français, si on en juge par le sondage que publie La Croix aujourd'hui, jugent que l'on a trop parlé de l'héritage de Johnny, ce qui veut dire quand même, entre parenthèses, Xavier, que 2% des Français trouvent qu'on n'en a pas assez parlé. Alors, j'imagine que ce sont ses fans. Et puis, 1% ne voit pas de quoi il s'agit. Ils doivent être heureux, ils doivent habiter à Lascaux, dans la grotte. L'héritage de Johnny est effectivement le symbole du pseudo-événement donnant lieu à une pseudo-information parce qu'en dehors de la famille de Johnny, qui peut être intéressé par l'héritage de Johnny? Et pourtant, à l'avenir, le buzz va encore grossir car c'est cela sa spécificité. Le buzz n'est pas seulement la conséquence de l'esprit du temps, mais la conséquence des technologies de l'époque. Comme le disait Marshall McLuhan, le média, c'est le médium. Et bien le médium aujourd'hui favorise au travers du web ce qui buzz. Buzz l'éclair, c'était le nom d'un super-héros, mais en matière d'infos, le buzz n'éclaire plus rien.
Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Herner.
Et aujourd'hui, nous recevons dans les matins Mounir Majoubi, il est secrétaire d'État au numérique. C'est le seul membre du gouvernement à revendiquer une forme d'empathie avec les gilets jaunes. Mounir Majoubi s'est distingué par sa volonté d'aller leur parler en se déplaçant sur leur terrain. Les groupes Facebook, le secrétaire d'État au numérique en est manifestement ressorti avec la conviction que le mouvement, malgré ses aspects inquiétants selon lui, pouvait à terme constituer une chance pour refonder la culture démocratique française. À quoi pourrait ressembler la République numérique qui s'annonce? Et bien pour le savoir, nous serons en compagnie de Mounir Majoubi, le secrétaire d'État au numérique, dans une quarantaine de minutes.